بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous essayons, inshallah, de compléter ce soir l'étude du nom d'Allah, Al-Hafidh, celui qui protège. Et dans le contexte actuel, on a grandement besoin d'être rassuré et d'être persuadé que ce ne sont pas les asbab, ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les intermédiaires qui font fonctionner le monde. Ce ne sont que des intermédiaires. Tout est dans les mains d'Allah, Azza wa Jal. Quand on entend à la radio des discours alarmistes, on se dit que est-ce que mon risque va diminuer? Est-ce que? Mais n'oublions jamais que notre risque est dans les mains d'Allah. N'oublions jamais que, imaginez même qu'il y avait, Allah protège, mais problème de guerre ou autre chose, ou même quand il y avait l'épisode, on parle de, au passé, le Covid ou autre chose, si on se base uniquement sur les données scientifiques ou les prévisions de l'armée ou autre chose, c'est normal qu'on soit angoissé. Mais non, ce ne sont pas les êtres humains qui décrètent comment est-ce que le monde fonctionne. Au-dessus de tous, il y a Rabbul Alamin qui est Al-Hafidh. Et ce Seigneur qui me protège, qui protège ma religion, qui protège sa révélation, qui protège mes actions et qui me les accordera le jour de Qiyam, Allah attend de nous quelque chose. C'est que chaque croyant protège son din en accomplissant, en respectant scrupuleusement les ordres d'Allah et en restant totalement, mais totalement éloigné de toute forme de désobéissance, sans distinction de kaba'ir ou de sara'ir, sans distinction de péché grave, majeur ou de péché qu'on mettra entre guillemets mineur. Hada. Ce qu'on va voir ce soir, Inch'Allah, c'est un conseil que le prophète alayhi salatu wassalam avait donné à Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, qui avait été voir le prophète alayhi salat wa salam pour lui demander conseil. C'était l'habitude des sahaba d'aller voir le prophète alayhi salat wa salam avant de voyager. Et le prophète alayhi salat wa salam lui a dit: "Usika bi taqwallahi ta'ala fi sirri amrika wa ala niyati." Je te conseille vivement de ressentir la crainte d'Allah en toutes circonstances, tant ouvertement que au plus profond de ton cœur. En commentaire de ce hadith, les savants disent, on a un sahaba, Abu Dharr, c'est, on ne présente plus, un des grands sahaba, et qui va voir le prophète alayhi salat wa salam pour lui demander conseil. Il y a déjà l'humilité des sahaba. Parfois nous, dans notre pratique de la religion, on atteint une certaine stabilité, alhamdulillah, une istiqam, alhamdulillah, dans la pratique, mais qui fait parfois qu'on ne se remet plus en question. Et on pense tout connaître. On n'a pas besoin d'alim, pas besoin de personne pour me donner de conseils, je sais tout. Monsieur, je sais tout, voilà. Et ça, c'est un piège de shaitan également. Le fait que tu ne réactualises pas tes connaissances et que tu n'essaies pas de voir est-ce que tu es vraiment dans le sirat al-mustaqim, ou alors parfois il y a besoin d'être accompagné, j'allais dire recadré, d'être accompagné spirituellement pour voir, pour savoir où est-ce qu'on pose les pieds. Mais les sahaba avaient cette humilité, et après c'est clair qu'avec le prophète alayhi salat wa salam, ce n'était que du bonheur, que d'avoir ne serait-ce un entretien, que d'avoir ne serait-ce un tête-à-tête avec lui. Qu'Allah nous accorde ces entretiens avec le prophète alayhi salat wa salam dans le Jannah. Allahumma amin. Et les savants disent également, le conseil que le prophète donne à Abu Dharr, c'est la taqwa Allah, la crainte d'Allah. Alors qu'il n'y a pas le moindre doute que les sahaba étaient les personnes les plus pieuses de cette umma. Sahaba, théoriquement, c'est pas quelqu'un qui se laisse piéger par shaitan, d'accord? Mais ce rappel est essentiel, est important. Et quand on parle de taqwa Allah, fi sirri wal alan, la crainte d'Allah dans les choses que je fais au quotidien, ouvertement, c'est-à-dire tous les péchés que je peux faire en public, mais la crainte d'Allah aussi, et j'allais dire, et surtout au plus profond de mon cœur. Et on avait vu le dernier d'Az, il y a 2 semaines, que vu le contexte actuel et le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, Lokman, combien d'heures de portable par jour? D'une aide. Combien de temps on passe sur les réseaux sociaux? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il y a des applications pour ça. Hein? Il vous fait un kalguzari, un bilan. Aujourd'hui, vous avez passé combien? Wallah musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. On a passé plus de temps sur Facebook, sur je ne sais pas quoi, que dans la masjid. C'est une réalité, qu'Allah nous pardonne. Donc les savants contemporains maintenant, on quitte un peu le texte. Les savants de notre époque disent que avec cette porte ouverte aux différents réseaux sociaux dont nous connaissons l'existence, et ceux qui n'en connaissent pas l'existence, qu'Allah vous protège, l'accès au péché est omniprésent. Et le danger que ça représente, on n'imagine même pas. Et donc cette fameuse taqwa Allah fait sirri au plus profond de ton cœur, ça c'est essentiel. Naam. On continue. Et justement, il y a le hadith qu'on avait annoncé depuis un mois, hadith de Thawban radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous annonce quelque chose d'inquiétant. Le prophète dit que je connais aqwaman, des gens parmi ma umma, ya'tuna yawm al-qiyamati, ils se présenteront le jour de qiyama bi hasanatin amthali jibali Tihama. Tihama, c'est une chaîne de montagne qui est entre l'Arabie Saoudite, enfin ce qu'on appelle maintenant l'Arabie Saoudite, et le Yémen. Le Yémen, ça s'est toujours appelé le Yémen, d'accord? Quel sahaba est envoyé au Yémen? Hein, Hudhayfa? Ça, c'est une belle question, ça. Le célèbre sahaba, hein? Oui, Mu'adh ibn Jabal, mashallah. La réponse vient de Montreuil et du plus jeune de notre groupe. Mu'adh ibn Jabal. Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé? Je sors du sujet. Pourquoi est-ce que le prophète l'a envoyé au Yémen? Hein, Ali, tu dois connaître ça. Ya Rajul. Parce qu'au Yémen, c'était des gens du livre. Ce n'étaient pas des adorateurs d'idoles. Les adorateurs d'idoles, c'était très facile de les faire comprendre que la yanfa' wa la yadur, ça ne te sert à rien. Si ça tombe, ça casse, ça fait quoi? Et ainsi de suite. C'était plus une da'wa qui faisait appel à leur sens, leur logique, à leur compréhension. Non, Yémen, c'était des gens du livre qui avaient un kitab, munazzal min Allah, un livre qui a été révélé par Allah. Ce qui veut dire que la da'wa, elle va être beaucoup plus technique, beaucoup plus précise. Il faudra une maîtrise des ayats, du Coran, mais également une connaissance de leur livre saint. C'est pour ça que le prophète m'a envoyé Mu'adh au Yémen. Allez, on revient. Cette chaîne de montagnes entre l'Arabie et le Yémen, elle mesure 2202 mètres. Le prophète alayhi salat wa salam donne cet exemple que des gens se présenteront le jour de Qiyama avec des bonnes œuvres, des bonnes actions. Ça, c'est moi qui donne des détails. Zikrullah, lecture du Coran, namazan jama'a, shuruq, tahajjud, umra, sadaqa, énormément de bonnes choses. Comme cette montagne, autant de récompenses. Et malheureusement pour ces gens, Allah Rabbul Izza réduira à néant haba ammanthura, ces bonnes œuvres. Et Thawban, sahaba, qui rapporte le hadith, il est choqué. Ça, c'est une information qui l'attriste profondément. Nous, on entend justement la fin de l'abondance ou autre chose, ça nous attriste. Que le prix de l'essence va augmenter, ça m'attriste. Le prix de... Heureusement, on n'utilise pas de chauffage ici, hein, parce qu'apparemment, ça va être compliqué pour se chauffer. On croirait revenir au Moyen-Âge, qu'il n'y aura pas assez de bois pour se chauffer. Franchement, des fois qu'on est con, on dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On ferme la parenthèse. Voilà, donc on entend tout ça, et voilà, ça nous perturbe. Sahaba, quand on dit que tes bonnes actions, possible que le jour de Qiyama n'existe plus, soit réduit en poussière, ça, ils ne peuvent pas accepter. Comment? Et là, il y a Rasulallah, sifhum lana, au prophète d'Allah, décris-nous ces gens, afin que Allah nakuna minhum, afin que nous ne. Pour être sûr que ce ne sera pas nous, hein, pour qu'on fasse attention, hein, qu'on ne développe pas, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Le voisin me dit que Amma innahum ikhwanukum, ce sont vos propres frères, et la même origine que vous. Et وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ Ce sont des pieux. Ils font tahajjud, ils font qiyamul layl comme vous. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi? Faire tahajjud comme un sahaba? C'est pas comme moi, hein? Pas encore. C'est pas le 2 rakat, vite avant ce boussadi, regarde l'heure, rend salat et tout. Non, c'est sahaba. يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ Ils font tahajjud, qiyamul layl comme vous. Walakinnahum aqwamun, mais c'est des gens qui, lorsqu'ils sont exposés au moins haram, moins de choses interdites, ils tombent dedans, comme des mouches. Ça, c'est moi qui rajoute. Ils tombent dans le haram. C'est-à-dire, amalun salih, faire des bonnes actions, ça, c'est acquis, ça. Ça, ils sont les premiers, ils répondent présents. Mais quand il y a un péché en face d'eux, ils ne peuvent pas résister. Je pense que ce hadith est une mise en garde extrêmement importante pour nous et qui nous permet de réaliser que la pratique du dîn, ce n'est pas uniquement ce que nous sommes en train de faire là. Ça fait partie du dîn, Allahu Akbar. Le fait d'être là et de ne pas être à la maison en train de regarder Netflix ou en train de faire je ne sais pas quoi. Alhamdulillah, sallayna al-isha, on a fait salat en jamaat. Inch'Allah, fajr, on fait en jamaat. Ça nous permet d'avoir la nuit en récompense, l'ibad. On est dans une majlis où on écoute la parole d'Allah. Donc, alhamdulillah. Mais le dîn, c'est également quand je vais sortir de la masjid. Quand je serai exposé au haram. Et le haram, il est partout, ça concerne. Et on va voir, il y a de très beaux hadiths aujourd'hui. Le haram concerne les yeux, concerne les oreilles, concerne ce que tu vas dire, concerne ce que tu vas penser, concerne plein de choses. Donc ça fait partie de la construction de ton iman. Et la personne qui se laisse aller, qui se laisse glisser complètement. Et Wallah Musta'an, moi je connais des gens qui ont une pratique de la religion, elle est tellement assidue. Je connais des gens qui... dans les échanges, dans les confidences, comme il dit, ils disent, même si c'était pas par ostentation, des gens qui sont tahajjud, mais 4 heures du matin toute l'année. C'est pas Ramadan, bas. C'est toute l'année. Je connais des personnes, je les connais personnellement. Mais quand on voit comment ils travaillent, leur façon de travailler, le commerce, ils travaillent pas de façon halal. Il y a un problème, hein? Il y a un problème, hein? Tahajjud tous les jours, mais il peut pas travailler. Quand on parle d'une limite concernant risque, concernant le travail, concernant kasbul halal, c'est pour eux c'est autre chose. Donc on doit faire très attention et on doit avoir un regard, on va dire, prendre un peu de recul pour analyser ma pratique religieuse, quitte à se faire accompagner de quelqu'un qui pourra me dire que oui, mais t'as tout ce que tu fais là, c'est bon, ce sont de bonnes choses, mais attention, telle chose, ça c'est pas bon. Fais très attention, parce que ta réussite ne se joue pas uniquement sur ta présence à la masjid. Mais ta présence à la masjid, elle est importante, attention, hein, ça j'insiste, hein, parce que vendredi on en a parlé, tu brillais par ton absence, tout le monde d'ailleurs, à part Hudhaifa. Et on rappelait que ça aussi, c'est un piège de shaitan. Quand il veut pas que quelqu'un revienne via le dîn, il dit que oui, mais tel monde, il fait 5 fois namaz par jour, mais pas derrière. Regarde que ça soit aux femmes, il fait, regarde que ça soit aux enfants, il fait. Ça, ben hypocrite tout ça, pas besoin de faire. Non, c'est pas parce que, citez-moi le nom d'un homme dans la vie de laquelle il n'y a pas un manquement. Ma fille, à part le prophète sallam, il n'y a personne. Donc on ne juge pas les gens sur leurs erreurs, on prend exemple sur eux dans leur bonnes œuvres. Ce qu'ils ont apporté, mashallah, ça doit être un modèle pour nous. Et ne pas juger quelqu'un par... Autrement, on ne prendrait personne comme modèle. On ne suivrait personne. Mama Alim, tout le monde, on est des êtres humains. D'accord? Qui atteint la perfection? Qui atteint le contrôle parfait jusqu'au bout de ses orteils? Ça, c'est Nabi alayhi salat. Il y a une fois, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il se fait agresser verbalement par une autre personne. Pour un litige, il l'insulte, il l'agresse. Abu Bakr ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas. Et le Prophète est avec eux. Et à un moment donné, le Prophète s'est détourné. Il dit, Abu Bakr, parce que tu as commencé à répondre à la personne. Tant que tu ne répondais pas, il y avait un ange qui était là. Vous connaissez, c'est un hadith connu, ça. C'est-à-dire qu'il y a des situations, même les sahaba sont mis en cause. D'accord? Mais on n'a pas à dire que voilà, il a fait ça, donc c'est pas un modèle pour nous, non, du tout. Allez, on referme cette énorme parenthèse. Et donc, ce qu'on doit retenir de ce hadith, c'est attention au haram que nous cumulons au quotidien. Et il ne faut surtout pas minimiser un péché. On doit faire attention et ne pas négliger ses péchés, ne pas considérer que ça c'est pas grave. Il y a rien qui n'est pas grave, tout est grave. Ce qui est grave, c'est de te mettre dans une situation où Allah est mécontent de toi. C'est déjà grave. C'est déjà un échec pour ta vie. Allah nous protège. Allez, on revient. Et puis en commentaire, l'auteur cite également une citation. Là, c'est pas un hadith, c'est une citation d'un grand savant. Et j'insiste aussi là-dessus. Quand c'est pas un hadith, on doit le dire. D'accord? Il dit que la pire, akhsarul khasirin, le plus grand échec, c'est celui qui celui qui fait voir ses bonnes œuvres quand il est en public, et wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilayhi min hablil warid, celui qui face aux gens montre le meilleur de lui-même, et lorsqu'il est seul avec son Seigneur qui est plus proche de lui que sa veine jugulaire. C'est un verset du Coran, c'est « Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ». Et quand il est seul avec son Créateur qui pourtant est plus proche de lui que sa veine jugulaire, il montre le pire côté, le pire, la pire face de son âme. C'est-à-dire quand on est seul, c'est là qu'on se laisse aller à des péchés. Nasrallah al-afiyah. Après, il a cité également un beau poème qu'on retrouve dans le Nouni à Ibn al-Qayyim. Je cite rapidement: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان. Dit que lorsque tu te retrouves dans l'obscurité de la nuit face à une tentation et que ton nafs t'invite vers l'isyan, parce que le nafs est là pour ça. إن النفس لأمارة بالسوء. Allah nous a créé comme ça, avec un nafs qui nous fait glisser vers le mal. فاستحي من نظر الإله, ressent la honte et ressent le regard d'Allah qui pèse sur toi et réalise que tu ne peux pas te permettre de le désobéir. Wa qul laha, et dis à ton nafs, allez cause avec lui. Wa qul laha, et dis-lui: inna alladhi khalaqa adh-dhulama yarani, sache que celui qui a créé l'obscurité me voit. C'est pas parce que je suis seul, isolé dans ma chambre ou autre chose qu'Allah ne me voit pas. Hada. On va continuer. Ibn al-Qayyim rahimahullah cite également que les gens qui ont atteint un haut degré de iman, ils réalisent, c'est-à-dire après un parcours spirituel, après, mashallah, des années et des années de ibada, il dit que il réalise que anna dhunub, les péchés qu'on accomplit quand personne ne nous voit, hiya aslul intikasat, c'est l'origine de la chute et de la régression. Et que quand tu commences à t'abonner à un péché seul, à prendre une mauvaise habitude, c'est là que progressivement ton degré de iman va chuter. Et tes acquis spirituels, tu vas commencer par les perdre les uns après les autres. Qu'Allah nous pardonne, nous protège et nous pardonne. Qu'Allah nous protège et nous pardonne de al-intikasat, le fait de, comme on a dans le Coran, tazilla qadamum ba'da thubutiha. Alors que on a déjà bien avancé dans le din, qu'on commence à être un peu plus fébrile, à perdre de bonnes habitudes. Et l'origine de cette faiblesse de iman, c'est lorsque la personne se laisse aller, je le répète, à des péchés dans la solitude. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit également, non, c'est pas Ibn al-Qayyim, c'est Ibn Rajab. Il dit que khatima tussu, et ça c'est compliqué. Su'ul khatima, c'est quoi, Jisab? Une mauvaise mort, qu'Allah nous protège. C'est quoi une mauvaise mort, hein? C'est mourir pauvre? C'est mourir sans être célèbre? Non. Une mauvaise mort, c'est mourir dans le péché. C'est mourir alors que tu es dans une situation de péché, franchement, qu'Allah nous protège. Ça, le mu'min doit demander tous les jours, demander à Allah husnul khatima, d'accord, et demander protection contre su'ul khatima. Naam. Il dit que khatimatus su' takunu, il dit que très souvent la mauvaise façon de mourir trouve son origine dans quelque chose de batin, dans quelque chose d'intérieur, bayn al-abdi wa rabbi, dans quelque chose qu'il y a de son cœur, dans une désobéissance régulière qu'il avait envers son Seigneur. Parce que c'est une preuve qu'il n'a pas l'amour d'Allah. C'est une preuve qu'il n'a pas la crainte d'Allah. Si à chaque fois que je me retrouve seul dans la solitude et que personne ne me voit, du moment qu'il n'y a plus personne pour me voir, j'accomplis des péchés. Ça veut dire que mon éloignement des péchés, c'était pas que ou alors uniquement la crainte d'Allah, c'était la crainte d'Allah mais également le regard des gens, et Allah ne supporte pas ça. Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Allah ne supporte pas le shirk. Le shirk, c'est pas uniquement te prosterner devant le soleil, la lune, devant une statue. Le shirk, c'est partager ton, qui trouve le mot, partager ton intention. Je fais pour Allah, mais également pour être bien vu. C'est khalas. Allah ne prend pas ça. Et Allah dit quand de ce cas de figure où quelqu'un fait une bonne action pour lui et pour les gens, taraktuhu wa shirkahu. Allah délaisse complètement et rejette cette action et ce qu'il a accompli. Qu'Allah nous protège. D'où l'importance de innama al-a'malu bin. Oui, c'est les hadiths qu'on entend je sais pas combien de fois. C'est la base. La base que ton niya soit sincère pour Allah. Et n'associe personne à Allah dans ton intention. Hada. Il dit donc, l'origine de su'ul khatima, c'est souvent ces péchés qu'on accomplit quand personne ne nous voit. Et je le dis, vous avez remarqué, ça fait trois dars qu'on insiste là-dessus. Parce que ce téléphone-là, là, en ce moment, il nous sert pour une bonne chose. Mais très souvent, le téléphone, la tablette et l'ordinateur, Wallah musta'an, source d'énormément de péchés qu'Allah nous protège notre iman et nous accorde son pardon. Je continue, on se donne encore 2 minutes. Il y a un verset mais qui a été partiellement commenté, mais le cheikh donne une piste. Il dit, à chaque fois que tu es tenté par un péché, tadhakkar da'iman, rappelle-toi tout le temps de ce verset, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui craignent Allah, on avait commenté ce verset, d'accord ? Qui craignent Allah dans toutes les situations, même quand personne ne les voit. Allah leur accorde 2 choses. Maghfira, c'est pardon. Allah leur accorde son pardon et ajrun kabir, une grande rétribution. Ce sont des versets clés qui doivent nous permettre de résister aux tentations et de ne pas aller vers le haram. Hada. Là, il y a des commentaires, mais comme on a dit, ce sont des points qu'on a vus un peu avant, donc on ne va pas insister là-dessus. Alors, il y a 2 façons de compléter le programme de ce soir. Soit on complète l'étude de ce nom d'Allah, soit on passe à un verset coup de cœur. C'est Luqman qui décide.
Les deux ?
Non, les deux, c'est pas possible.
Le verset coup de cœur,
c'est un verset que j'ai entendu un de mes élèves lire il y a quelques jours. Il était en train de réviser, donc il le lisait en boucle. Et je l'écoutais et ça m'a beaucoup touché. En fait, tous les versets nous touchent, mais c'est exactement en rapport avec tout ce qu'on vient de voir. On est dans la sourate Fussilat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Alors quand ils y seront, c'est-à-dire on parle des gens qui sont dans l'enfer. On a remarqué la plupart des versets qu'on cite dans les temps, c'est dramatique. Ce sont des versets où tout est fini. Les gens sont dans l'enfer et qu'est-ce qui se passe? Qu'Allah nous protège. En fait, on cite ça parce que c'est en rapport avec les péchés. Quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Allama As-Sa'di, rahimahullah, il commente et dit, Ey, hatta idha, c'est quand ils sont proches de l'enfer et là, wa aradu al-inkar, ils ne reconnaissent plus. Ils vont dire, oh Allah, je n'ai pas fait ces péchés, c'est pas vrai, les anges se sont trompés, je n'ai pas fait telle chose et telle chose. Et c'est là que le verset, la traduction, les yeux, les oreilles et tout vont témoigner contre cette personne. Bima kanu ya'malun, dit chaque membre du corps va témoigner que ana fa'altu kadha wa kadha. Oui, c'est bien moi qui a fait telle chose et telle chose. نعم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. وهو خلقكم أول مرة. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois. Et c'est vers lui que vous serez retournés. La traduction souvent ne nous parle pas trop. Ça reste, voilà, quoi, des textes très beaux, mais c'est quand on rentre dans le tafsir que franchement, ça nous interpelle. Et ils demandent, ils sont interpellés, c'est comme si que le corps humain, il est divisé maintenant. Et il parle à lui-même, à sa propre personne, pourquoi est-ce que tu témoignes? Pourquoi est-ce que vous témoignez et ce témoignage va m'être bientôt préjudiciable? Naam. Et les membres du corps vont dire que c'est Allah le Créateur qui décide de nous faire parler. Et c'est lui qui prend les décisions et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de notre Seigneur Azza wa Jal. Et justement, c'est quand on creuse le tafsir, c'est là qu'on voit d'autres hadiths qui commentent le verset. Et là, ça devient beaucoup plus parlant. Et je vais compléter, conclure avec ça. Anas bin Malik, radiallahu anhu, dit que le prophète, alayhi salat wa salam, une fois, s'est mis à sourire. Et il dit que, il explique aux sahaba, ce qui l'a fait sourire, c'est une scène de l'au-delà. C'est quand un serviteur, il argumente, il ose argumenter avec Allah le jour de Qiyamah, dit « Ya Rab, alaysa wa'attani alla tazlimani ?»« Oh Allah, tu m'as pas fait la promesse que tu ne feras pas preuve d'injustice le jour de Qiyamah ?» Allah Rabbul Izzah dit « Bala, bien sûr que oui. » Et là, la personne dit « Je n'accepte aucun témoignage des anges, de tout ça, aucun péché, je ne reconnais aucune de ses fautes. » Je ne reconnais. C'est pour ça que le prophète m'a souri, parce que cette personne trouve encore le moyen de se défendre, de dire à Allah, ils sont tous menteurs, les anges et tout. Tout ça, c'est pas vrai. Ce qui est écrit dans les livrets, c'est pas vrai. Ya Allah, fais pas zulam sur moi. Fais pas zulam sur moi. Allah musta'an. Et là, Allah Rabbul Izzah, et là, on voit la bienveillance d'Allah. Comment Allah répond à cette personne? Allah Rabbul Izzah va l'empêcher de parler. Il y aura un khatm, quelque chose qui va bloquer, sa bouche ne pourra plus parler, et là les membres de son corps vont parler. Alors ça c'était l'introduction du verset, ce sont des versets qu'on connaît ça, qu'on connaît, qu'on entend très souvent. Mais la partie qui m'a le plus interpellé, c'est là que je veux vous le lire, c'est « وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ » Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et je ne vais pas lire le tafsir, ça va être un peu long, mais ce que les Mufassirin, Ibn Kathir, Al-Allama, Sa'di et Al-Barawi, on a recherché trois Mufassirin, disent que le grand problème avec l'être humain, avec nous, c'est que quand on est face à une tentation, face à un péché, c'est comme si que voilà, on se dit qu'on le fait et après on verra. Et au moment où tu accomplis ce péché, Shaitan te fait oublier complètement le regard d'Allah sur toi. Et ce verset dit bien que vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas empêcher qu'Allah Rabbul Izzah soit témoin de ce que vous faites. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Je relis ça, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette réaction, le fait de penser que je le fais, après on verra, ou c'est pas bien grave. Toutes sortes d'excuses que Shaitan met dans notre cœur pour faire ce péché. Il y a, c'est pas grave. Il y a, Allah y pardonne. Ou on verra plus tard. Ou alors je vais au Hajj cette année, on va demander pardon. Ou alors il y a des gens qui font pire. Ou alors c'est la première fois que je fais. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis pas un péché en Dieu aussi. Tout ça, c'est des disques depuis des années, ça. Shaitan met tout ça dans ta tête, dans le cœur de la personne pour le faire chuter, mais c'est ça l'origine du mal. On pensait anna Allah la ya'lamu, qu'Allah ne, peut-être qu'Allah ne sait pas, d'accord? Et wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum, il y a le mot dhann qui revient, et c'est cette pensée que vous aviez eu de votre Seigneur, ardakum, qui vous a ruiné. C'est ça qui fait que beaucoup de gens seront dans l'enfer, qu'Allah nous protège, parce qu'au moment d'être face au péché, il a occulté complètement le regard d'Allah sur lui, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Fa asbahtum minal khasirin, qu'Allah nous protège d'être parmi les perdants, ces personnes qui se laissent aller à nombre de péchés quand personne ne les voit. Qu'Allah raffermisse notre iman, nous donne la véritable taqwa, qu'Allah guide nos cœur et nos mains, nos membres vers les meilleures des actions et nous protège des péchés et des situations de péché. Et si jamais on doit faire face à une situation de péché, pour moi le hadith le plus beau, le plus magnifique, c'est lorsque le prophète dit que parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah, un homme qui reçoit les avances d'une femme de grande beauté et de haute lignée. Ça, c'est le summum du fitna. Une femme d'une grande beauté et une femme d'une haute lignée, c'est-à-dire quelqu'un d'important. Et les muhadithines disent ce qui veut dire également que cet homme-là, il est d'une une grande beauté, il a des ni'ma et certainement quelqu'un de reconnu. Et que cette femme propose à cet homme d'aller vers l'adultère et il refuse et il dit je crains Allah. Alors que le péché est accessible, et je ne rentre pas dans les détails, mais les muhaddithines disent, le péché est accessible, c'est-à-dire sans conséquence pour lui de cette terre. C'est que ni sa femme ne va savoir, ni les gens, c'est-à-dire une situation de péché qui est idéale. Mais la personne refuse par crainte d'Allah. Donc même si on est exposé à un péché, qu'Allah nous donne la possibilité de refuser par amour et par crainte d'Allah, Rabbul Izzah. Subhanallah, Rabbika, Rabbil Izzah, Amma, Yassifun, wa salamun ala al-mursaleen, alhamdulillahi, Rabbil Izzah, Kuna khair.